Ondes universitaires à l'écoute des futurs, avec Yasmine Edhiri.
Bienvenue à tous nos auditeurs et auditrices et merci de vous joindre à nous. Je suis Yasmine Edhiri, étudiante à l'UTC et en service civique chez Radio Graphite. Ce semestre, je reprends l'émission sur la vie étudiante à l'UTC où j'échangerai avec des associations engagées autour d'un thème. Cette semaine, j'accueille Elliot et Raphaël pour une émission intitulée « Quelle place pour les enjeux écologiques à Compiègne ?». Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger au cœur de Compiègne pour explorer les initiatives écologiques qui transforment progressivement la ville. Au cours de cette émission, nous mettrons en lumière les individus, les organisations et les projets qui façonnent un avenir plus vert à Compiègne. Nous découvrirons comment cette ville historique prend des mesures pour lutter contre le changement climatique, préserver sa biodiversité et encourager la participation active de ses habitants à cette cause cruciale. Restez avec nous alors que nous plongeons dans les récits inspirants de nos invités, membres de l'association CET, Compiègne en transition, dont l'objectif est de nous sensibiliser à ces enjeux. Avant de commencer, Elliot et Raphaël, est-ce que vous voulez vous présenter ?
Donc oui, moi c'est Elliot, je suis étudiant à l'UTC en génie urbain en quatrième année.
Et moi c'est Raphaël et j'ai 20 ans et je suis aussi étudiant en génie urbain en première année de génie urbain et en troisième année à l'UTC.
Et ça fait combien de temps à peu près que vous faites partie de l'association ?
Alors du coup, moi je suis officiellement coprésident depuis ce semestre, mais ça fait déjà quelques semestres que je suis dans l'association avec différentes responsabilités, différents postes.
Qu'il gravite un peu autour. Et pour moi, ça va faire un an et demi, deux ans que je suis dedans. Et j'ai eu différents postes avant d'être coprésident le semestre dernier et ce semestre.
Et rapidement, avant de plonger sur les questions en rapport avec Compiègne, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association ?
Alors oui, Compiègne en transition pour la partie, on va dire, UTC, parce qu'il y a deux parties. Il y a une partie ville qui est indépendante de notre collectif au sein de l'UTC. Pardon. Donc pour la partie UTCN, on a un peu trois grands domaines d'activité. Un peu un pôle pratique, réappropriation, où on va faire des ateliers de jardinage, permaculture, ateliers de construction d'objets low-tech. On a un pôle aussi qui se charge d'organiser des événements de sensibilisation, de mobilisation. Donc ça peut être des soirées engagées, des présentations d'intervenants, par exemple de militants écologistes. On a également un pôle qui se charge de la communication sur les réseaux sociaux, qui fait des petits articles, des posts pour continuer un peu notre travail de, on va dire, mobilisation. On va un peu plus loin que la sensibilisation, parce qu'on estime qu'il faut donner des moyens aux gens de changer et pas simplement les informer, ce qui est déjà beaucoup.
Merci pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu général des efforts écologiques en cours à Compiègne et à l'UTC et de leur impact sur la communauté locale ?
Alors, pour ce qui est de ces efforts, déjà, il y en a un peu de différents types. Il y a les efforts officiels qui sont mis en place à l'UTC, par exemple, avec des nouveaux cours sur des thématiques environnementales, sur la sensibilisation de tous les étudiants. Il y a aussi des conférences qui sont organisées sur ces thématiques et deux collectifs qui ont vu le jour. Le collectif de l'ingénierie soutenable qui a permis de créer un label pour les étudiants pour qu'ils puissent véritablement centrer leur cursus sur ces thématiques et en avoir un marqueur sur le diplôme. Et le collectif Low-Tech qui, lui, défend du coup ces innovations frugales et plus soutenables et qui essaie de les démocratiser au sein des étudiants notamment. Et pour la ville de Compiègne, il y a aussi des actions qui sont mises en place, notamment avec le SMDO qui s'occupe du tri et des déchets, mais il y a aussi avec la recyclerie, donc c'est un endroit où ils récupèrent les meubles, les réparent, etc. Et après, plus généralement, il y a un plan de sobriété énergétique qui a été mis en place et aussi un contrat de transition écologique avec les agriculteurs locaux. Et la ville essaie d'obtenir des labels sur ces thématiques. Le label Happy Cité, donc pour l'accueil des pollinisateurs, et le label Ville Fleurie aussi, qui ont rapport avec la biodiversité. Et enfin, je pense qu'il y a pour la ville... Il y a un fonds vert avec des concours pour obtenir de l'argent pour des projets, financer ce genre de projets. Et bien sûr, après, il y a des mesures comme les aménagements urbains qui essaient de plus en plus de prendre en compte avec le plan vélo, les pistes cyclables et aussi le passage à 30 km/h dans le centre-ville et les choses comme ça.
Tu as évoqué au début de ta réponse les initiatives qui étaient mises en place à l'UTC. Est-ce qu'elles sont portées par des étudiants ou c'est l'administration de l'UTC qui les met en place ?
Alors du coup là, les mesures que j'ai citées, c'est principalement des mesures qui sont soutenues et organisées par l'UTC, mais souvent après des initiatives étudiantes qui les ont un peu poussées vers le haut. Les collectifs ont été principalement menés par des étudiants et des professeurs qui se sont engagés sur ces thématiques, et c'est leur engagement qui a poussé l'école à transformer ces engagements sous forme de collectif, sous forme d'association, à les transformer en actions concrètes, en labels et en nouveaux cours à l'UTC.
Merci. Tu as aussi parlé des initiatives qui étaient en cours à Compiègne. Est-ce qu'il existe des incohérences entre les engagements qui sont pris par la ville et les actions qui sont concrètement mises en place ?
Alors, des incohérences, je ne sais pas, mais en tout cas, on a un discours dans la ville de Compiègne qui est assez classique pour les villes moyennes de 40 000 habitants. C'est qu'on fait pas mal de mesures un peu de verdissement, où voilà, on travaille sur les labels API qui ne sont pas des mauvaises choses en tant que telles, mais le problème, c'est qu'on ne remet pas en cause des grands projets qui vont faire bien plus de dégâts que les petites mesures qu'on est en train de mettre en place, qui sont nécessaires mais pas suffisantes. Et pour donner deux exemples aux auditeurs, on a actuellement un projet du canal Seine-Nord-Europe qui va en gros relier Cambrai dans le Nord à Compiègne et qui cherche simplement à transformer le canal du Nord existant, qui est sous-utilisé, en énorme canal pour, en fait, c'est les termes qui sont donnés par les promoteurs du projet, pouvoir mettre des péniches porte-conteneurs de 3 étages sur l'eau. Et très concrètement, c'est un chantier qui est dantesque, on parle de 100 km de canal, donc c'est 2500 hectares d'espaces agricoles qui vont être artificialisés. Donc ça, d'un point de vue environnemental, c'est extrêmement coûteux, d'autant plus quand on est dans des situations où les villes ont une autonomie alimentaire quasiment nulle. Là, on transforme 2500 hectares de surface agricole parmi les plus fertiles de France, parce que la Picardie a toujours des terres très très fertiles. Et tout ça pour accélérer, on va dire, le développement du fluvial, selon un discours un peu écologiste qui consiste à dire les camions qui sont sur la 1 vont se dépasser sur le fluvial. Mais dans les faits, on va juste surtout avoir, on va pas avoir de report modal, parce que la 1 étant déjà saturée, les 3 camions qui vont pouvoir, soi-disant, aller sur le fluvial vont être immédiatement remplacés parce que c'est une autoroute qui est saturée. Et ce qui va vraiment être problématique, c'est qu'on a aujourd'hui un fret ferroviaire qui se développe, mais qui est surtout menacé par un manque de financement. Et le développement de grands projets comme ça, ça menace directement le fret ferroviaire. Et évidemment, c'est un projet qui est coûteux, 5 milliards d'euros, on pourra peut-être y revenir, mais c'est un projet qui va bouleverser les conditions de vie dans l'Oise, qui va toucher à notre cadre de vie à Compiègne. Donc concrètement, on va avoir sur le papier, on va avoir des porte-conteneurs qui vont traverser dans notre ville. Ça va peut-être menacer des infrastructures historiques comme le pont Solferino. Et ça va juste mettre des nuisances très importantes sur la biodiversité pour les petits pêcheurs qui ne pourront plus faire leurs activités. Ça va mettre en concurrence la petite batellerie existante dans l'Oise avec les grands navigateurs européens. Donc on a un projet très destructeur et qui est soutenu, ou du moins qui est laissé dans l'indifférence générale, alors même qu'il va y avoir des destructions très claires d'un point de vue environnemental et social. Et le deuxième projet qui est un peu dans le même sens, c'est celui de l'écoquartier. Au niveau de la gare de Compiègne et de la face de la gare à Margny, on va transformer ce quartier en un écoquartier. Donc les enjeux affichés sont développement des logements, développement des activités, développement des services. Mais c'est toujours un peu le problème avec les écoquartiers, c'est qu'en fait, on va artificialiser des territoires qui ne l'étaient pas, des terrains qui ne l'étaient pas, tout ça pour densifier la ville, et on va détruire par exemple des jardins ouvriers. Des jardins ouvriers qui sont utilisés par la population et qui vont être remplacés par des parcs. Alors, je ne suis vraiment pas contre les parcs, mais disons qu'on aurait pu faire un autre projet où, au lieu de faire des centaines de logements, on mettait des parcs et on laissait les jardins ouvriers. Et donc, voilà, c'est deux projets qui, pour moi, apportent des grands changements dans Compiègne et qui sont toujours présentés avec le petit côté vernis écologique. Mais quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas.
Merci pour cette mise en perspective. Est-ce que aujourd'hui, ce sont des projets qui sont déjà actés, déjà en cours, ou est-ce qu'il y a des séances d'échange, de travail avec les associations, les syndicats, par exemple, pour revoir un peu ces problèmes que tu évoques?
Alors, pour ce qui est du projet du canal Seine-Nord, ils ont déjà toutes les autorisations. Il y a une enquête d'utilité publique qui a été faite, qui a été réalisée. Idem pour le deuxième projet qui est directement lié à ça, c'est le projet Mageo. Donc ça, c'est un autre nom pour dire en fait qu'ils font le canal de Cambrai à Compiègne. Et après, on s'occupe d'élargir l'Oise entre Compiègne et Creil. Le but étant à terme de faire une autoroute fluviale, pour reprendre leurs mots, qui mène directement à la Seine, donc relier les ports du Nord avec ceux de la Seine. Et donc, le problème, c'est qu'à chaque fois, pour ces projets-là, qui sont d'une ampleur sans nom, on a une enquête publique. On a plusieurs séances qui se tiennent dans les communes qui sont traversées par le projet. Mais c'est tout le problème de l'enquête publique, c'est qu'il y a des travaux d'historiens, notamment ceux de Frédéric Graber, qui a publié un livre qui s'appelle « Une histoire l'inutilité publique », pardon, excusez-moi, aux éditions Amsterdam, et qui montre, en fait, qui s'intéresse à ce processus d'enquête publique, de comment l'État se charge de faire valider auprès de la population des grands projets qui vont bouleverser le quotidien des habitants. Et il montre que, globalement, dans la plupart des cas, ce processus d'enquête publique, qui se veut un peu démocratique, mène juste à la validation totale de tous les projets qui vont être mises en place, alors même qu'il y a de la contestation chez les personnes, chez les habitants, chez les différents publics concernés. Et c'est juste que c'est l'outil même de l'enquête publique qui est en fait à chaque fois un outil de validation des projets. Et donc oui, il y a eu des enquêtes, mais par exemple, elles se font à des heures très curieuses, 14h à 16h, en plein milieu de la semaine, et il n'y a pas beaucoup de gens qui participent, parce que déjà peu de gens sont au courant qu'il y a ces enquêtes publiques. Peu de gens peuvent se libérer un mardi de 14h à 16h pour faire 10 km et passer 2 heures, même si c'est très important. Hein. Mais peu de gens peuvent le faire. Et même pour dialoguer sur le projet, il faut forcément avoir lu les pièces du dossier, qui sont parfois des rapports très techniques de 200-300 pages. Malheureusement, nos concitoyens n'ont pas forcément le temps et l'énergie à investir dans ce type de procédure. Et donc, on se retrouve avec des projets qui sont validés par le commissaire enquêteur, mais qui sont parfois très contestés. On l'a vu par exemple avec l'A69 qui est actuellement entre Toulouse et Castres, qui a été validée par l'enquête d'utilité publique, mais la grande majorité de la population, 80% je crois, est contre. Et pourtant, il y a eu cette enquête. Donc voilà, c'est un peu le problème.
D'où l'importance d'associations comme Compiègne en Transition pour nous tenir informés de ces questions-là. Je pense que, Eliott, tu l'as un peu évoqué dans ta réponse à la question précédente, mais pourquoi est-il important pour une ville comme Compiègne de s'engager dans des actions écologiques ?
Ça paraît plutôt évident, mais Compiègne, c'est une ville qui est déjà très touchée par ces thématiques, notamment parce qu'on possède une forêt qui est un patrimoine remarquable et extrêmement important pour les concitoyens. Mais cette forêt, elle est en mauvais état, avec, je crois, c'est 40% des arbres qui sont mourants dans la forêt. Il y a aussi des problématiques liées à l'eau, avec, justement, dans la forêt est parsemée de différents étangs qui s'assèchent ou qui sont pollués. Notamment, il y a eu des fermetures, là, pendant de l'étang du Buissonnet, à côté de Compiègne, pour pollution. Il y a aussi la problématique juste de l'Oise, qui est une rivière très importante et qui pourrait rentrer en crue. Ça arrive, et ça devrait arriver de plus en plus souvent en raison du dérèglement climatique. Et bien sûr, on est aussi touché, on commence à le sentir à Compiègne, même si on est encore dans le nord de la France, on est touché de plus en plus par des canicules et d'autres événements climatiques importants. Et pour une ville qui a 40 000 habitants et qui est située comme Compiègne, c'est extrêmement important de s'engager dans ces thématiques. C'est-à-dire Compiègne, elle est les habitants de Compiègne sont un peu attirés de tous les côtés, entre Paris, Beauvais, Creil. Donc, il y a énormément de déplacements entre toutes ces villes, il y a énormément de liens. Et donc, Compiègne est très soumise à ces tensions, notamment pour le travail. Et elle est aussi limitée physiquement. Elle ne peut pas s'étendre à l'infini en raison de la forêt, en raison de l'Oise. Donc, en fait, c'est une ville qui doit s'engager sur ces questions et comprendre que elle doit sortir en fait du schéma classique et qu'elle ne pourra pas de toute façon gagner face à l'influence de Paris, etc., qui la touche déjà beaucoup et qui l'impacte. Et il faut que la ville, enfin, selon moi, là c'est un avis personnel, hein, il faut que la ville elle accepte cette position et qu'elle en fasse son point fort, qu'elle arrive à tirer parti de cette situation et à sortir un peu du schéma classique de on dépend trop de Paris, donc on va attirer plus de monde en faisant des emplois, des logements et en promouvant les entreprises et la croissance le plus possible.
Voilà. Donc c'est ce genre de schéma dont il faut sortir.
Voilà, l'idée ce serait de sortir un peu de ce schéma très classique qui s'est développé dans toutes les villes en France. Et on le voit hein, dans le fait que Compiègne fait partie du programme Cœur de Ville, qui vise à revitaliser les petites villes, les villes moyennes de France, à travers des programmes pour rendre le territoire attractif aux entreprises, etc. Alors ça a des effets pour les populations, mais souvent bien inférieurs à ce que pourrait faire la ville si elle changeait de vision.
Tu as commencé ta réponse en donnant un bilan sur l'état de la forêt de Compiègne. Est-ce que tu as une explication ? J'imagine qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer pourquoi l'état des arbres se dégrade de plus en plus. Est-ce qu'il y a des raisons comme ça que tu peux évoquer ?
Alors, personnellement, je ne me rappelle pas de toutes les raisons, mais c'était un ancien travailleur de l'ONF qui avait expliqué ça lors d'un atelier. Et donc, les raisons, effectivement, sont multiples. Il y a les changements des températures, le fait que les étés sont de plus en plus chauds. Il y a le fait que, de base, le terrain de la forêt de Compiègne, ce n'était pas une forêt à l'époque. C'était, avant que la forêt soit créée par la royauté française, c'était uniquement des marécages. Donc, en fait, le sol qui est en dessous n'est pas forcément le plus optimal pour une forêt, même s'il a eu le temps d'évoluer. Et donc, il y a une maladaptation de certaines espèces d'arbres et qui sont en plus touchées de plus en plus par des maladies. Et il y a certaines zones de la forêt dans lesquelles les espèces ne sont pas variées, notamment dû à l'exploitation dans certaines zones. Et il y a donc des problématiques à ce niveau-là, de maladies qui se diffusent entre les arbres et associées à tous les autres facteurs de réchauffement, de l'eau et ça...
De pollution des airs ?
Je ne sais pas du tout si ça a un impact direct sur...
N'étant pas un grand spécialiste non plus, je dirais que c'est aussi beaucoup la qualité des sols, hein, comme tu l'as dit, les changements de température, enfin, ça tue les arbres à petit feu. Et là, je crois que l'ONF a toutes les difficultés du monde pour replanter des arbres dans la forêt de Compiègne parce qu'ils n'arrivent plus à pousser. On arrive à un stade de dégradation environnementale où l'arbre n'arrive plus à pousser dans un sol alors même que...
C'est ça.
Et j'imagine que la ville de Compiègne a conscience de ces difficultés. Est-ce qu'il y a des limitations, des...
Elle en a sûrement conscience. Après, pour ce qui est mis en place, on n'a pas trop d'informations sur le sujet. Je sais que l'ONF mène des expérimentations en mettant des espèces qui viennent plus de climats plus au sud, et donc plus chaud, pour tester est-ce que ces espèces s'adaptent mieux. Ils font aussi des essais sur... quelles associations ils peuvent planter qui pourraient pousser rapidement et venir endiguer cette problématique. Mais au niveau de la ville, à part peut-être le soutien à l'ONF, il n'y a pas vraiment d'informations ni de communication sur ce genre de sujet.
Au début de l'émission, on a parlé des initiatives qui étaient mises en place à l'UTC au sein de la ville de Compiègne. Mais comment est-ce que les habitants de la ville, étudiants ou pas, peuvent prendre des initiatives pour soutenir l'écologie à Compiègne ?
Je pense que, d'abord, on a surtout parlé des initiatives officielles, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives citoyennes, donc par des associations. Donc il y a bien sûr Compiègne en transition. Donc il y a une partie pour les étudiants, mais il y a aussi une partie pour les habitants de la ville, qui est organisée et gérée par les habitants de la ville, qui organise différents ateliers... pour réparer le mobilier ou l'électroménager, qui organise des marches pour ramasser les déchets, des ateliers de sensibilisation, etc. Mais il n'y a pas que Compiègne en transition. Il y a aussi Aneco qui met en place un système de consignes à Compiègne, avec notamment Emboîte le plat dans certains restaurants qui proposent des consignes en verre. Ça devait être pour 4 euros, quelque chose comme ça. Et ensuite, quand on le ramène la fois suivante, ils nous rendent l'argent. Donc c'est un système très important et au final assez basique, et c'est assez compliqué à mettre en place. Donc il y a cette association qui travaille là-dessus. Il y a aussi une AMAP qui existe à Compiègne. Donc c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc qui vise à soutenir des agriculteurs n'employant pas les grandes méthodes industrielles et avec toutes les problématiques qui sont liées. Il y a aussi l'association des usagers du vélo, des voies vertes et des véloroutes des vallées de l'Oise. AU5V, donc, qui promeut ce mode de déplacement. Et enfin, il y a par exemple l'association AVA, Abolissons la vénerie, qui s'oppose à la chasse à courre et qui mène des actions dans ce sens. Donc ça, c'est des exemples que moi, je connais. Après, il y en a peut-être même encore d'autres. Le nombre d'associations est assez important dans la ville. Et tout ça, en fait, c'est des exemples concrets de citoyens qui se mettent en mouvement, qui se réunissent et qui, ensemble, élaborent des solutions, élaborent des initiatives pour la ville et pour l'ensemble des habitants. Donc, ça fait déjà des choses dans lesquelles peuvent s'engager les habitants.
C'est ça, il y a plein de moyens d'engagement. Et après, on pourrait aussi rappeler qu'il y a aussi un peu une dimension, on va dire, collective à prendre en main. Ce n'est pas juste un changement individuel. Nous, on est assez porteurs de cette vision-là, accompagnés en transition. On milite pour un changement vraiment de société. Donc, ça peut paraître un peu utopiste, mais c'est vraiment l'idée de dire que ce n'est pas simplement en additionnant nos changements individuels qu'on va pouvoir vraiment lutter contre les problèmes environnementaux, que ce soit le réchauffement climatique, mais également la pollution des sols, la pollution de l'air, l'érosion de la biodiversité. C'est un problème multicausal qui nécessite des réponses d'ordre systémique. Et donc, par exemple, les habitants peuvent également montrer leur volonté de voir la ville changer, notamment, par exemple, en militant ou en simplement disant qu'ils sont favorables, par exemple, à une ville sans voiture. Et ça serait complètement réalisable à l'échelle de Compiègne, ça demanderait des aménagements, d'avoir une ville sans voiture, avec des parkings relais, etc., etc. Mais il y a des villes qui ont choisi cette politique. On a, par exemple, Pontevedra, en Espagne, qui est une petite ville de 80 000 habitants, donc deux fois la population de Compiègne, qui, depuis en gros 20 ans, a tout organisé pour qu'il n'y ait plus aucune voiture dans son centre-ville, même dans la ville en général. Et les résultats sont là. On a une nette baisse des émissions de CO2. Il n'y a plus, évidemment, aucun accident de la route dans la ville. Et du coup, bah, c'est quand même des vies qui sont sauvées. Et c'est là une volonté politique qui a été de dire bah, on arrête la voiture dans cet espace. On organise tout pour que les gens puissent faire la transition, parce qu'il ne s'agit pas de dire on laisse les gens dans le désarroi. Évidemment que les gens ont besoin de la voiture pour travailler, mais à l'échelle d'une ville comme Compiègne, 40 000 habitants, c'est réalisable, surtout sur une petite superficie comme ça. Donc il y a aussi montrer qu'on veut du changement et qu'on est prêt à adopter des modes de vie collectifs plus soutenables. C'est ça aussi, je pense, qu'il faut qu'on souligne.
Et proposer peut-être des alternatives aussi, parce que s'il n'y a plus de voiture, les habitants vont quand même devoir se déplacer, proposer peut-être de développer le réseau des transports en commun.
Voilà, exactement. Et comme on disait, il ne s'agit pas de les laisser sans défense et sans armes pour aller faire 30 km pour aller à leur travail. On propose des solutions alternatives, on les met en place et ensuite on active les différents leviers. Voilà, ça peut être les transports en commun, ça peut être un meilleur réseau de pistes cyclables avec des prêts de vélos comme c'est déjà le cas dans la ville de Compiègne, mais on augmente les capacités. Évidemment qu'il faut, ça se réfléchit et ça se porte. C'est un projet de ville, mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'expériences à l'heure actuelle qui sont menées. Ça ne concerne pas uniquement les transports. On peut penser à mettre en place dans la ville des jardins ouvriers, des jardins collectifs, où ça permettrait à la population de reprendre en main un peu le côté production alimentaire. Il ne s'agirait pas de se nourrir uniquement avec un potager, mais juste, ça peut être des moyens de sensibiliser les plus petites populations, de passer des moments sympas pour apprendre comment on entretient un jardin, un potager, et ça permet aussi une meilleure santé des habitants.
Donc, ça, il me semble que c'est déjà mis en place dans certains quartiers, mais je ne sais pas si c'est par la ville de Compiègne ou par les habitants des quartiers, mais c'est vrai que ce serait une bonne idée à creuser. Et donc justement, est-ce que la ville encourage les citoyens à la sensibilisation par rapport à ces questions-là? Est-ce que vous avez des exemples à ce sujet?
Bon, c'est assez compliqué d'y répondre, étant donné qu'on ne vient pas de Compiègne à l'origine et qu'on n'est pas là depuis très longtemps. La ville encourage du coup les projets sur ces thématiques avec un budget vert. Elle mène sûrement une certaine action de sensibilisation peut-être au sein des écoles, des choses comme ça, mais après, nous, à notre niveau, on n'en a pas forcément entendu parler. Et en tout cas, tant qu'habitants qui ne sont pas là depuis très longtemps, enfin, personnellement, moi, je n'ai jamais entendu parler J'ai dû voir peut-être passer une fois des conseils de quartier, des choses comme ça, mais je n'ai pas vu spécialement de communication sur le sujet, sur des débats qui seraient organisés par la mairie, sur des thématiques qui peuvent toucher tout le monde. Donc, c'est encore une chose. En tout cas, je pense, du peu que j'en sais, que la ville pourrait faire bien plus à ce niveau-là, qu'elle pourrait mener une véritable politique de démocratie participative, citoyenne, où les habitants pourraient vraiment apprendre ce qui se passe à Compiègne, connaître les projets, les choses en cours, et donner leur avis, et même co-construire ces projets. Ce serait bien plus intéressant que des projets qu'on voit juste apparaître du jour au lendemain sans jamais en avoir entendu parler.
Et qui peut bénéficier du budget vert dont tu as parlé?
Alors, je pense que tout le monde peut en bénéficier. Ils ont une enveloppe sur plusieurs années de 50 000 euros sur 3 ans. Et les projets peuvent demander jusqu'à 1 500 euros pour développer un projet. Voilà. Mais donc, c'est assez limité et c'est une procédure assez compliquée pour les obtenir. On avait essayé d'en parler avec la mairie, notamment sur le sujet du compostage, parce que c'est un sujet qui est assez important. Et surtout, il y a une obligation à partir de janvier 2024. Toutes les communes doivent pouvoir fournir à leurs habitants, doivent pouvoir proposer une solution pour composter ces biodéchets. Sauf que, du coup, à ce sujet, nous avions proposé à la ville d'installer des composts urbains, des bacs potagers. On en a notamment installé un à l'UTC, mais qui a été financé par l'UTC et par l'association. Et la ville n'a pas voulu le faire, notamment parce que le fonds vert était limité à 1 500 euros et que pour installer des composts urbains, ça coûte quand même bien plus cher que ça. Et surtout, ils nous ont dit clairement qu'ils avaient déjà une solution pour le compostage. On était plutôt ravis, on s'est dit si la ville doit fournir une proposition, ils vont sûrement installer des composts ou au moins fournir des composts individuels. Mais en fait, ils vont vendre des composts individuels aux habitants. Je crois que c'est quelque chose comme 30 ou 40 euros, et ils vont le proposer à la vente. Et en fait, comme les habitants ne sont pas obligés d'utiliser la solution proposée, en fait, ça va juste dépendre du bon vouloir des habitants d'acheter ces composts payants. Et donc, pour ce sujet, c'est par exemple un peu dommage. On aurait aimé que ce soit fourni gratuitement, sur demande peut-être, mais gratuitement, ou en tout cas qu'il y ait des choses accessibles pour tous et sans distinction à ce niveau-là.
Et est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le compost à l'UTC, comment ça marche? Est-ce que c'est ouvert qu'aux étudiants ou est-ce que même les habitants de la ville peuvent en bénéficier?
Alors, le compost est installé derrière l'UTC dans le jardin de la maison des étudiants. Il est accessible à tout le monde, on ne peut pas en bloquer l'accès de toute façon. Et c'est assez simple d'utilisation, hein. Il suffit d'y mettre ses déchets selon, en respectant bien sûr les règles du compostage, donc pas de viande, pas d'os, enfin des choses comme ça, et d'y rajouter de la matière sèche qui est disponible directement au niveau du compost. Bon, là en ce moment on a un petit problème d'approvisionnement, donc il n'y en a pas, donc c'est un peu compliqué. Mais normalement de mettre un peu de matière sèche et de mélanger pour le dernier bac qui a été installé, qui est un bac où on peut en fait faire tourner le compost pour le mélanger, et sinon juste mettre comme ça la matière sèche, et ensuite il faut juste laisser à décomposition pendant un certain temps, et à la fin il y aura de la matière utilisable pour du jardinage. Mais c'est quelque chose d'important, le compostage, et on veut que ce soit ouvert à tout le monde, et ça a quand même du succès parce que ça se remplit très vite, plus vite que les capacités qu'on a, donc voilà.
Vous avez remarqué une hausse de l'utilisation du compost?
On avait des anciens composts qui étaient installés au fond du jardin, qui étaient déjà utilisés, qui se remplissaient, voilà. Et l'installation du nouveau n'a pas baissé l'utilisation des deux. Les deux sont toujours utilisés, et même le nouveau est déjà, je pense, à moitié plein quasiment, alors qu'il a été installé et mis en service il y a 2 ou 3 mois. Il a été mis en service il y a 3 mois en juin, à peu près fin juin. Voilà.
Ben c'est bon à savoir, merci pour les infos. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les défis auxquels Compiègne est confrontée aujourd'hui pour devenir une ville un peu plus durable, et comment est-ce que collectivement on pourrait les surmonter?
Alors voilà, les défis, évidemment il y en a beaucoup, déjà sur un manque de connaissances. Hein, enfin, évidemment que tout le monde a entendu parler du changement climatique, mais le problème c'est que ça manque de solutions concrètes sur ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens et en tant qu'habitants de Compiègne. Il faut également faire attention aux fausses solutions, enfin Nous, on n'est vraiment pas contre les petits gestes. Pour nous, c'est nécessaire, mais comme on l'a dit, ce n'est pas suffisant. Et on est donc très alerte sur le fait que tout doit changer. Donc, de la manière dont on consomme les habits, la nourriture, même nos voyages, nos vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et, mais aussi, par exemple, le métier qu'on va exercer pendant 40 ans. Et tout ça, ça a généralement un impact bien plus important que juste trier ses déchets, entre gros guillemets, même si je suis vraiment pour le recyclage. Mais il faut évidemment aussi en faire un sujet, on va dire, de vie, de société. Ce n'est pas une question qui est réservée à un camp politique. C'est une question qui doit toucher tout le monde. Ça va tous nous concerner. On souffre tous déjà quand il y a une canicule, comme en 2022, qui a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France. Et alors, on est tous dans le même bateau. Donc, il faut qu'on avance vite et de manière assez forte, mais il faut le faire avec tout le monde, sinon on aura des petits soucis de vivre ensemble. Mais voilà, il nous faut aussi demander davantage de changements au niveau politique, parce que les citoyens peuvent faire ce qu'ils veulent. S'il n'y a pas des grands changements, comme on l'a dit, que ce soit la piétonnisation, que ce soit la création de grands jardins partagés, que ce soit l'arrêt de certains projets nocifs comme celui du canal ou reconfigurer des projets comme celui de l'écoquartier, sans cette volonté politique, malheureusement, on est un peu laissé seul.
C'est ça, le défi est de réussir à embarquer positivement tout le monde, de laisser personne sur le bord de la route, de faire avancer les choses avec tous les habitants de la ville. Et pour ça, il faut aussi que ces habitants aient une volonté commune et le fassent savoir au niveau politique.
Et du coup, merci pour votre témoignage et votre participation aujourd'hui sur Radio Graphite. Est-ce que vous avez un dernier message ou un conseil que vous souhaiterez partager aux auditeurs et auditrices de Radio Graphite ?
Un dernier message, je leur dirais de s'engager associativement, s'ils le peuvent, s'ils en ont le temps, et même de manière ponctuelle. Donc, j'ai déjà cité, il y a plusieurs associations à Compiègne. Il est toujours possible de s'engager. Et au-delà de parler des thématiques environnementales, c'est bien sûr aussi un lieu de rencontre, de discussion, de débat et d'action. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a aussi la possibilité de s'engager au-delà des associations, dans des mouvements politiques, pourquoi pas, si les gens sont intéressés par ces questions, s'ils ont envie de faire bouger le système de l'intérieur, des choses comme ça. Ça dépend vraiment de la personne et de ce qu'elle souhaite faire. Et ce que je dirais quand même aux auditeurs, c'est qu'ils peuvent se renseigner. Il y a plein de sources d'informations, il y a des livres sur le sujet, sur ces thématiques qui sont très accessibles. Il y a des sites internet, il y a des vidéos YouTube, il y a plein de choses pour en apprendre davantage. Et quand on apprend ce qui se passe et tout ce qu'il y a à faire dans ce domaine, en fait, ça ne peut que nous pousser à s'engager et nous donner envie d'agir pour cette cause.
Merci Elliot et Raphaël et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'imagine qu'ils peuvent vous contacter directement Compiègne en Transition pour partager leurs propositions, leurs questions et autres. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.